brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle de lecture, émission destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer et à essayer de vous donner envie de le lire. Pour ça, nous avons deux interprètes.
Flattés.
Catherine et Hervé.
Ah, il est très fort.
Ah oui.
Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, c'est plutôt Catherine qui va nous lire quelque chose, des nouvelles que tu as choisies.
Voilà, des nouvelles, comme la dernière fois. Alors, la première nouvelle que j'ai choisie est d'un auteur qui s'appelle Frank Pavlov, qui est un monsieur qui a beaucoup écrit, qui est né en 1940. Il a écrit plus de 25 livres, des fictions romanesques, des carnets de voyage, de la poésie, de la littérature jeunesse, pas mal.
Il n'a pas travaillé sur les réflexes.
Je ne sais pas s'il a travaillé sur les réflexes, Monsieur Pavlov, mais il a beaucoup voyagé, donc il a dû pas mal travailler sur les réflexes de l'humain. On va voir d'ailleurs, son petit bouquin là parle des réflexes humains aussi. Donc il a bourlingué partout pendant plus de 20 ans, et il a travaillé dans le développement social communautaire, la défense des droits de l'enfant, etc. Voilà, alors là je vais lire une petite nouvelle, une nouvelle universelle, la thématique, c'est en fait une nouvelle contre la pensée unique et ce que Pavlov appelle les petites compromissions. C'est un petit bouquin qui a été tiré à plus d'un million d'exemplaires et vendu à plus d'un million d'exemplaires en 2002.
En 2002 déjà ?
En 2002. Il l'a écrit en 98, je crois. D'accord. Mais en 2002, il y avait une raison, il y avait des élections qui avaient perturbé retardé certaines personnes. Non. Oui. Vous comprendrez en entendant la lecture. Matin brun de Frank Pavlov, publié aux éditions du Chêne. Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie, on échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. Bon, c'est toujours triste, un kleps qui vieillit mal, mais passé 15 ans, faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un brun. Un labrador, c'est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie ? C'est pas la question, c'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant ? Ouais, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que, d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, valait mieux garder les bruns, que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat, c'est un chat. Comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qu'instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les ministres de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux. Bon, cœur s'était serré, mais on oublie vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Ouais, il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose. Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire, on s'était quittés, mais avec une drôle d'impression, comme si on ne s'était pas tout dit. Pas trop à l'aise. Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Oh, il en était resté sur le cul, et le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Ils ont coulé ? Des grèves ? Une faillite ? Non, c'est à la suite de l'affaire des chiens. Des bruns ? Ouais, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs, ils savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards. Ah, à trop jouer avec le feu. Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Mince alors. Et pour le tiercé ? Mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que ça. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. Puisque les autres avaient passé les bornes, fallait bien qu'il reste un canard dans la ville, on ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un lecteur des Nouvelles Brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant, j'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après, ça avait été autour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot « chien » ou « chat » au moins une fois par volume, et sûrement pas toujours assorti du mot « brun ». Elle devait bien savoir tout de même. « Faut pas pousser », disait Charlie. « Tu comprends, la nation n'a rien à y gagner à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. » « Brune », il avait rajouté en regardant autour de lui. « Souris brune », au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter « brun » ou « brune » à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle, hein, mais puis après tout... Le langage s'est fait pour évoluer et c'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter « putain con hein, » à tout bout de champ comme on le faisait par chez nous. Au moins, on était bien vus et on était tranquille. Et on avait même fini par toucher le tiercé. Oh, pas un gros, mais tout de même, hein, notre premier tiercé brun. Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien. Non, magnifique, brun de la queue au museau, avec des yeux marrons. Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre, et immobile au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. À peine il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue. Et gueule que je te gueule, et que même brun, je n'obéis ni à mon maître, ni à personne. Et Charlie avait soudain compris. Ah non, toi aussi? Ben ouais, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. Qu'est-ce qu'on avait ri? Tu parles d'une coïncidence. Tu comprends, je lui avais dit, j'ai toujours eu des chats, alors... Il est pas beau celui-là? Magnifique, il m'avait répondu. Puis on avait allumé la télé pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité. Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. La sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. Hein. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait son caniche blanc mort à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits. Il n'avait qu'à en chercher un brun. Même des petits, on en trouvait. Et comme nous, il se sentirait en règle et oublierait vite l'ancien. Et puis hier, incroyable. Moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Ils m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie. Le dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bière à la main, c'était tout. On devait taper le carton 2 ou 3 heures tout en grignotant. Et là, surprise totale, la porte de son appartement avait volé en éclats et 2 miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendue par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Bah, pourtant, son chien était un vrai brun, on l'a bien vu, nous. Ouais, mais à ce qu'ils disent, c'est que avant... Il en avait un noir, pas un brun. Un noir. Avant. Bah oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir, hein. Il suffit de demander au voisin. J'ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant j'avais eu un chat noir et blanc. Avant. Ça alors, j'aurais jamais pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit. Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. Le speaker a même ajouté « injure à l'État national ». Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont amené Charlie, mais là ils exagèrent, c'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter, des proprios de chats et de chiens. J'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des brins dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat, comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non, résister davantage. Mais comment? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non? On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort, j'arrive.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces aviné, mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu quand se mordant la bouche, le goût en vous revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, immortel. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait? Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortels, mortels. jamais dit, mais nous sommes immortels.
Bien, c'était donc Matin Brun de Franck Pavlov, la première nouvelle que Catherine vient de nous lire. Catherine, tu en as une seconde à nous lire, je crois.
Alors j'en ai une seconde, voire deux si on a le temps, mais nous verrons ça tout à l'heure. Alors ce sont des nouvelles de Patrice Franceschi, j'espère que je prononce bien, c'est un nom corse. Alors ce monsieur, comme Franck Pavlov, a beaucoup écrit, mais comme lui aussi, il a plusieurs vies, puisqu'il a été marin, explorateur, cinéaste. Et il est l'auteur de nombreux ouvrages. Il a même écrit un recueil de nouvelles qui a eu le Goncourt de la nouvelle en 2015. Voilà, il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Alors, c'est un recueil, c'est pour ça que je voudrais inciter les gens à le lire, c'est un recueil de nouvelles, donc par définition on peut les lire séparément, mais il y a quand même une construction dans ce recueil qui nous amène à une fin pas spécialement gaie, mais c'est ce que j'appellerais non pas un roman, mais des nouvelles d'anticipation. Donc,
qui font pleurer dans les chaumières.
Qui feront pas pleurer, mais j'espère qu'ils font un petit peu réfléchir. Voilà. Les parois de verre. Mademoiselle Asuncion, malgré toute ma bienveillance et la sympathie que j'éprouve à l'égard de votre jeune personne, l'affaire dans laquelle vous êtes empêtrée est embarrassante. Les caméras de la gare sont formelles, vous êtes bien à l'origine de l'altercation avec le préposé du guichet numéro 7. Oh mais je ne l'ai jamais contesté, monsieur l'inspecteur, mais le préposé en question refusait d'accepter l'argent liquide avec lequel je voulais acheter mon billet de train. Avouez que c'est une exigence extravagante, pour ne pas dire suspecte, cela ne se fait pratiquement plus. Et pourquoi pas ? Parce que les choses évoluent, mademoiselle. Vous connaissez la dernière ordonnance des Nations Unies universelles. Dans 3 mois, les billets de banque d'équivalent argent seront définitivement supprimés pour que la transparence de la vie publique progresse d'un pas supplémentaire. Le préposé anticipait le mouvement et on ne peut lui en vouloir. Il s'est montré trop zélé, voilà tout. Ah mais je ne cherchais pas à blanchir de l'argent sale ou à corrompre ce monsieur, vous savez. Sans doute, mais vous rendez-vous compte de tout le temps que perdrait la société si chaque consommateur se comportait comme vous ? Pourquoi ne vouliez-vous pas payer votre billet normalement avec votre carte bancaire ? Bon, je ne ressens ni le besoin ni le désir de faire savoir où je vais à n'importe qui et surtout à ma banque. Mais pourquoi parler de besoin ou de désir, mademoiselle Asuncion ? N'est-il pas normal et même logique de tout faire savoir ? Il y a bien longtemps que plus personne n'agit autrement. Verriez-vous à ce comportement une menace, comment dire, contre votre présence à vous-même ? J'ai entendu des gens qui parlaient comme ça. Non, pas forcément tort, monsieur l'inspecteur. C'est embarrassant alors. Mais laissons cela pour l'instant. Où alliez-vous donc pour ne pas vouloir qu'on le sache ? Je rentrerai simplement chez moi à Buenos Aires. Je reprends mon travail demain. Je suis graphiste à la société du Rietz et j'étais venu passer le week-end à Rosario. Très bonne idée. L'Argentine offre tant de lieux de villégiature où la douceur de vivre signifie quelque chose, n'est-ce pas ? Vous auriez dû communiquer là-dessus d'ailleurs, mais mes subordonnés n'ont rien trouvé à ce sujet sur votre téléphone, même pas une photo ou une notification Facebook. C'est étrange cette manière d'agir. Enfin, revenons à notre sujet. Pourquoi avoir fait tant d'histoires au guichet si vous n'aviez rien à cacher ? Je n'avais rien à cacher, mais rien à dévoiler non plus. C'est une question de vie privée en quelque sorte. Allons, allons, mademoiselle Asuncion. La vie privée est une anomalie depuis au moins 50 ans, hein, comme si vous ne le saviez pas. Nous sommes en 2069 tout de même. Les murs qui autrefois séparaient les hommes n'existent plus et c'est une bonne chose. Tout le monde en convient. Auriez-vous un problème avec les parois de verre qui ont remplacé les murs ? Qui me dit que votre attitude extravagante ne cache pas quelque chose ? C'est moi qui le dis, monsieur l'inspecteur. Vous conviendrez que c'est insuffisant, surtout de la part d'une personne responsable d'un esclandre public. J'ai cliqué sur votre dossier tout à l'heure. L'ordinateur m'a signalé que vous utilisez très rarement votre carte bancaire. Ouais, le moins possible. C'est une manie, cette conduite hors norme. C'est ma façon à moi de rester libre, monsieur l'inspecteur. Libre ? À quoi faites-vous allusion ? Vous l'êtes plus qu'on ne l'a jamais été, mademoiselle. Tout ce qui vous est offert, carte bancaire comprise, contribue à la commodité de votre existence, donc à votre liberté, c'est manifeste. J'ai plutôt l'impression que vous n'aimez pas laisser des traces. Et ça, c'est quand même bizarre. Cela justifie notre petite conversation. Toutes mes traces m'appartiennent, si vous voulez savoir ce que je pense. Il n'y a que les animaux pour les laisser derrière eux. Je vois pas pourquoi des tas de gens que je ne connais pas auraient la possibilité de tout savoir sur moi, et moi rien sur eux. Et puis, disons que ma liberté commence avec mon autonomie et vos soi-disant commodités réduisent à rien l'une et l'autre. Ouais, je vois. Vous filez un mauvais coton, vous savez. Ça me rappelle un procès auquel j'ai assisté comme enquêteur il y a 2 ans, un ancien alpiniste qui continuait à faire le malin malgré l'interdiction de son métier. C'était un Italien, je crois. Oh, j'ai oublié son nom. Un type à risque, en tout cas. Celui-là aussi refusait de faire comme tout le monde. J'ai lu son affaire dans les journaux, monsieur l'inspecteur. Alors je suis allée le voir en place de grève à Milan il y a 6 mois. Ce n'est pas très agréable d'être exposé devant les passants avec un carcan sur les épaules. Que voulez-vous, c'est la règle. Impossible de plaisanter avec ça. Le public doit être édifié. En tout cas, il riait quand les gens se moquaient de lui. Tiens donc, c'est étrange, vraiment. Je ne pourrais jamais comprendre les gens de cette sorte. Enfin, ou de la vôtre, d'ailleurs. Mais cessons de nous égarer. Revenons à votre affaire de trace. Si vous n'avez rien à vous reprocher, quelle importance cela peut-il avoir que l'on sache où vous allez et quand ? Et c'est tout aussi anodin que de savoir dans quel restaurant vous dînerez demain et à quelle heure le cinéma où vous rendrez un peu plus tard. Et ce que vous achèterez le jour suivant dans je ne sais quel magasin que l'on vous connaisse par cœur peut servir à tout le monde. Vous savez, c'est ça qui importe. Vous avez votre utilité. Vous contribuez aux besoins de la société. Vous n'êtes plus dans la solitude. Et puis de nos jours, on ne s'appartient plus, c'est comme ça. Pourquoi faire tant d'histoires ? C'est votre dignité qui serait menacée si l'on savait tout de vous. En quelque sorte, monsieur l'inspecteur. À propos, je ne connais pas votre nom. Hernandez, je m'appelle Antonio Hernandez. Monsieur Hernandez, pourquoi toutes ces choses anodines dont vous parlez ne resteraient-elles pas ma propriété puisqu'elles m'appartiennent ? C'est moi seule qui devrais décider à qui je les donne et à qui je les refuse. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Oh, ne cherchez pas à m'influencer, mademoiselle Asuncion. En vérité, cet aspect du problème n'a guère d'intérêt. C'est votre comportement qui pose question. En outre, d'après votre dossier, vous envoyez très peu de courriers électroniques. À peu près 100 fois moins que la moyenne des consommateurs. Et pourquoi devrais-je en envoyer beaucoup ? Mais tout le monde communique, ma jeune amie. Mais si je préférais avant tout communiquer avec moi-même, pourquoi devrais-je gaspiller mon temps ou me le faire voler ? Je pourrais rire de vos propos ou croire des choses beaucoup plus gênantes. Par exemple, que vous cherchez à conserver du temps de cerveau disponible pour des pensées condamnables. Est-ce que par hasard, vous voudriez être une sorte de, comment dire, pensée qui se pense ? Oh, vous me faites trop d'honneur, monsieur l'inspecteur. Parce que ça a existé autrefois, ce qu'on dit. Dois-je croire alors que converser d'abord avec vous-même plutôt qu'avec les autres vous procure le sentiment de vous appartenir ? Mais c'est vous qui faites des histoires maintenant. Je refuse tout simplement de communiquer à tort et à travers. Ce n'est pas difficile à comprendre tout de même. Communiquer est une valeur en soi, mademoiselle Asuncion, une preuve d'ouverture sur les autres. Chacun sait cela depuis longtemps, vous semblez avoir du retard. Moi, à haute dose, ça m'enferme de communiquer, ça m'empêche de penser. Laissez-moi tranquille. Tranquille. Mais distrayez-vous un peu et tout ira mieux. C'est encore un crime de ne pas vouloir me distraire en permanence de moi-même et de ce que je suis ? Certes non, mais ce n'est pas normal. Pas dans la norme, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à une réflexion pareille ? Oh, rien. En fait, il n'y a rien à répondre. Le problème, c'est que j'ai extrait de votre dossier quelques-uns de vos courriels de ces dernières années. Assez significatif, je dois dire. Mes algorithmes font un travail de choix. Vous gardez tout et ne jetez rien, n'est-ce pas, monsieur Hernandez ? Tout peut servir, mademoiselle Asuncion. La preuve, ces courrières cernent assez bien votre personnalité. Dans l'un, adressé à une certaine Marion, vous écrivez « Ma chère amie, comme je suis heureuse que nous ayons décidé de ne plus skyper, nous ne nous sommes pas vus depuis 2 ans et nos retrouvailles de la semaine prochaine vont être pleines d'émotions. J'ai hâte de te voir. » Non, c'est délirant, non ? Peut-être, mais comment faire autrement pour préserver l'intensité des choses vraies ? En fait, je comprends votre charabia. Tous vos autres courriels sont du même genre, d'ailleurs, et démontrent qu'il va m'être difficile de vous convaincre. Peu importe. Passons à l'examen de votre téléphone portable. C'est un modèle plutôt archaïque. Avec ça, vous ne pouvez pas rester connecté. Ça frise l'illégalité. Je téléphone et j'envoie des SMS. C'est un délit de se limiter à ça. Certes non, encore une fois, simplement ça ne se fait pas non plus. On pourrait penser là aussi que vous avez des choses à dissimuler. Oh, mais je veux pas être encombrée d'un tas de choses inutiles, je tiens pas non plus à parler pour ne rien dire. Pourquoi devrais-je perdre le peu de temps que la vie m'accorde à échanger sur tout et n'importe quoi avec n'importe qui ? Je vous trouve bien prétentieuse, mademoiselle Asuncion. Et en fin de compte, très renfermée sur vous-même, vos discours datent des années 2000. Ils ne datent pas, monsieur l'inspecteur Hernandez. Ils sont de tous les temps. Je vois ce que vous voulez dire, mais on n'en est plus là. Dans le fond, vous m'amusez. En fait, vous ne voulez rien partager par principe, vous voulez choisir. C'est toujours un peu suspect de vouloir systématiquement choisir, et pas très productif. Cela discrimine beaucoup le monde, mais passons sur cet égoïsme. Toujours d'après votre dossier, vous naviguez très peu sur Internet. Pourquoi donc ignorez-vous la toile à ce point ? Oh ben, j'y vais quand ça m'est utile, monsieur Hernandez, mais c'est de plus en plus difficile de trouver des diamants parmi les ordures. Insinueriez-vous par hasard qu'Internet est un vaste égout ? Prenez garde, ma jeune amie. Ah non, je pose juste une question. A-t-on déjà vu pareil bouillie de vérité et de mensonges mélangés ensemble ? C'est tout. Au moins, je vous remercie de ne pas avoir ajouté que c'est le lieu de tous les complots et de la désinformation générale de tout le monde par n'importe qui. J'aurais été obligée de transférer votre dossier à qui vous savez. Oh, je n'ai effectivement rien dit de tel. Je sais me tenir quand il faut. Tant mieux, mademoiselle Asuncion, vous m'évitez de sombres perspectives. Mais j'aimerais vous entendre déclarer qu'Internet et son espace de liberté permettent un accès si prodigieux au savoir que le reste est sans importance. Veuillez le dire, s'il vous plaît. Si vous voulez. À la bonne heure. Alors, pourquoi n'en profitez-vous pas ? Oh, mais je vais quelquefois dans cette soupe, monsieur l'inspecteur, mon dossier vous le signale d'ailleurs, mais j'y vais avec des bottes et une lampe torche. Ouais, je sais. Cependant, même ainsi, vous déployez je ne sais combien de ruses pour limiter les traces de vos navigations. Je m'y efforce, monsieur Hernandez, mais je ne gagne jamais. La vie est ainsi faite, que voulez-vous ? Et des tas de gens surfent sur Internet à longueur de journée sans faire d'histoire. Mais arrêtez de me parler des animaux domestiques, vous êtes pénible à la fin. Oh, votre prétention d'animal sauvage est stupéfiante. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'imagine que ça explique pourquoi vous êtes inexistante sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Bon, ça me plaît d'être difficilement joignable, voyez-vous. On a les satisfactions qu'on peut, et puis je n'ai pas envie d'exposer mon intimité à la terre entière, ni de voir celle des autres en permanence, c'est gênant. Ne parlez pas encore de vie privée, s'il vous plaît. Ah non, je voulais juste parler d'intimité. Quand on est net et clair avec les autres comme avec soi-même, on n'a pas besoin d'intimité ou de vie privée, c'est désuet. Une pareille libération de la solitude est sans prix. Ah mais je ne parlais pas de solitude, monsieur Hernandez. Vous ne comprenez décidément rien à rien. J'ai des amis, vous le savez très bien.
Oui, c'est effectivement ce que signalent mes algorithmes. Mais vous auriez bien davantage d'amis si vous communiquiez, échangiez, partagiez. 10 milliards d'hommes et de femmes ne demandent qu'à être votre confident.
10 milliards, c'est beaucoup, monsieur l'inspecteur. Avoir autant d'amis que j'ai de doigts à mes deux mains me suffit. J'ai mis du temps à y parvenir. Votre pessimisme est aussi suspect que tout le reste, mademoiselle Asuncion. Mais je lis de mieux en mieux dans vos pensées. Si vous restiez connecté en permanence comme tout un chacun, vous auriez l'impression que, comment dire, qu'on aspire votre moelle, c'est ça ?
Non, monsieur l'inspecteur, pas ma moelle. Comment dire, moi aussi, mon âme ?
Oh, pas de grands mots, je vous prie. Il y a une utilité profonde à ce que chacun dévoile tout ce qu'il a dans son esprit. Cela sert à tous les autres, je vous l'ai déjà dit, et ce n'est plus à démontrer. C'est pourquoi vous devriez montrer un peu plus de transparence dans le futur. Vos interrogations saugrenues disparaîtraient, pour ainsi dire, mécaniquement. Vouloir penser par vous-même ne vous rendra pas plus libre. C'est du passé, tout ça. Que voulez-vous ? Je ne peux pas m'en empêcher. Faites quand même un effort avant qu'il ne soit trop tard. Mettez sur la voie publique vos goûts, vos désirs, vos pensées, vos actes et tout le reste. Ils seront utiles aux autres, je le redis par souci de votre avenir. Soyez transparente autant que n'importe qui et vous n'aurez plus aucun problème. Le viol des foules s'appelle transparence de nos jours. Il n'y a plus de limite. Comme vous y allez, de la provocation maintenant. Je suis fatiguée, monsieur l'inspecteur. Quoi qu'il en soit, notre petite conversation a eu son utilité. Je vous cerne complètement désormais et j'ai dans l'idée que vous pensez que tout le monde surveille tout le monde à travers nos parois de verre. Même pas. C'est ça qui est dépassé. Les gens comme vous savent tout de moi. Je ne sais rien d'eux. Voilà l'affaire. Je crois qu'un petit suivi psychologique vous ferait le plus grand bien. Votre esclandre de tout à l'heure pourrait déboucher sur une conclusion malheureuse, vous savez.
tous vos psychologues n'entreront pas là où je ne veux pas qu'ils entrent. Oh, ne parlez pas de liberté intérieure, mademoiselle Asuncion. Votre cas s'aggraverait d'office. Ne me provoquez pas, vous ne faites pas le poids. Je sais. Je me demande si je ne vais pas vous envoyer quelque temps en centre d'isolement complet. La loi m'y autorise dans un cas comme le vôtre. Mon corps sera prisonnier, voilà tout. Et vous pensez qu'on ne peut rien contre vous ? Ah, vous pouvez tout sur ce qui vous paraît important, monsieur Hernandez. Rien sur ce qui m'est essentiel. Si je vous envoie devant le tribunal correctionnel et que vous répétez ça, vous allez écoper d'un bon paquet d'années d'exposition publique, comme votre ami l'alpiniste italien, là. Mais je suis d'un naturel clément, je vous ferai plutôt interner en centre de rééducation. Je me sens déjà interné à vie, monsieur l'inspecteur. Interné à vie dans le monde qui est le nôtre ? Ah, votre conclusion m'intéresse prodigieusement, mademoiselle Asuncion. Je vois d'un coup ce que doit être en fait votre punition pour cet esclandre à la gare et les pensées que vous avez osé exprimer devant moi. Je ne vais pas vous faire le plaisir d'une condamnation qui vous retirerait de ce monde. Ah non. Je vous condamne au contraire à y retourner sur le champ pour y souffrir le reste de vos jours et sans autre forme de procès.
La. La 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 first name is free la 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 last name is dumb la 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 choose to believe la 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 in where we're from freedom 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 do you recall no long ago we would walk on the sidewalk for each other, but the night was warm. We were bold and young. All around, the wind blow. We would only hold on, let go. Blow kiss, fire again. We needed someone to lean on. Blow kiss, fire again. All we needed somebody to lean on. Freedom. Blow kiss, fire again. Freedom.
C'est comme ça qu'on
beat in my drum like dum di di di. I love the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama mama hey mama mama. Beating the drum like dum di di di. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name like hey mama mama hey mama mama. Be my woman, girl, I'll be your man. Be my woman, girl, I'll be your man.
Je fais bouger les têtes, tu connais mes textes, connais pas ma technique, bec pété qui je vise le bingo, que des faux lingots, éviter les bimbos, mate mon équipe, ça fout les boules, ouais ça les dégoûte, car nous on déboule comme des fous dans la foule, mais on passe assez cool, toi tu restes à l'écoute, on se serre les coudes, ils nous prennent pour des fous.
J'suis pas un gangster, pas la peine de mentir, j'suis comme toi.
Sam, sam, sam.
Un gangster, pas la peine de mentir, j'suis comme toi.
Venga baila, comme ça qu'on sème, sème, sème. Me laisse pas solo, solo. Conmigo,
gangsta.
Comme ça qu'on. Hey mama, mama, hey mama, mama. Som, som, som.
Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. I'm too hot,
hot, hot,
hot damn.
Hot damn.
Call the police and a fireman. I'm too hot,
hot, hot,
hot damn.
Hot damn.
Make a dragon wanna retirement.
Girls hear you, hallelujah.
Woo!
Girls hear you, hallelujah.
Woo!
Girls hear you, hallelujah.
Woo!
Girls hear you, hallelujah. Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. I'm in love with the coco.
Donc je vais vous lire une deuxième nouvelle tirée du roman « Dernière nouvelle du futur » de Patrice Franceschi. Et comme dans la première, il y avait une allusion à un certain alpiniste qui avait été condamné à la place de grève. Je vais vous lire le procès de Luigi C.
Je trouve aussi que ça ressemblait étrangement à Matin Brun que tu nous avais lu au début.
En fait, ça vraiment, va parfaitement bien ensemble. Alors, les pères de Patrice Franceschi, c'est, ben, on les connaît, c'est Huxley et Orwell, quoi. On est dans ce monde-là. Accusé, levez-vous. Nom, prénom, âge et profession. Luigi Compagnoni, monsieur le juge, né à Palerme, Italie, le 15 juin 2016. 51 ans, guide de haute montagne, sans emploi depuis 10 ans. 10 années pendant lesquelles vous avez continué à exercer illégalement votre ancienne profession malgré sa stricte interdiction. J'en conviens, monsieur le juge. Et pour ne rien cacher aux jurés et aux consommateurs présents dans cette salle, j'en suis fier. La justice appréciera. Mais je vous conseille de ne pas jouer au plus malin avec ce tribunal. Vous risqueriez gros à faire de votre procès une tribune publique. Alors, pour bien vous le faire comprendre, j'ajoute à votre dossier l'acte de rébellion. Ce n'est pas une accusation infondée, je l'accepte pour ce qu'elle est. Continuez sur ce ton et je vous inculpe également pour voie de fait sur ma personne. Mais revenons à ce que vous venez d'affirmer, votre fierté a causé la mort d'un homme. Je le regrette profondément. Monsieur Cantori était un ami et sa disparition a représenté une grande tristesse pour moi. Mais ce n'est pas ma fierté qui est la cause de son décès. Ce sont les risques des ascensions en montagne. Autrefois, on appelait ça un accident. Vous feignez d'ignorer que les accidents sont faits pour être évités. La Constitution des Nations Unies Universelles a inscrit cette volonté populaire dans son article 5 il y a déjà 12 ans. Vous avez refusé d'en tenir compte. La suppression de votre métier participait de cette volonté de sécurité dont vous ne faites visiblement aucun cas. À toutes fins utiles, je vous donne lecture au juré du décret numéro AC-2812 fondant la reconnaissance de cet article 5. Sont bannis à compter de ce jour, 11 mars 2055, toutes les professions inutiles au progrès et à toutes celles présentant une mise en danger de la vie d'autrui sans raison effective et utile. Vous avez dépassé les bornes, monsieur Compagnoni. L'alpinisme est fait pour dépasser les bornes que nous appelons limites, monsieur le juge. Vous contestez donc une loi du peuple, vous savez ce que vous risquez. Oh, le risque a toujours été mon métier. Aujourd'hui, avec vos lois, il est ma patrie. Edmond Cantori était de mon avis, il tenait absolument à effectuer l'ascension du mont Cagliari. 2807 mètres, vous rendez-vous seulement compte, une folie. Bon, elle était mesurée, hein. D'un point de vue strictement technique, il n'y avait pas d'obstacle majeur. Le Cagliari n'est pas l'Everest. Mon ami Cantori disposait des aptitudes nécessaires et sa volonté était de parvenir au sommet de cette montagne. Disons que c'était notre liberté commune, mais c'est ainsi que nous avons vu les choses. Mais la liberté ne se situe plus dans ces vieilleries, monsieur Compagnoni. Elle se situe dans l'innovation d'un monde plus sûr. Je vous le rappelle également puisque vous faites semblant de ne pas saisir ce que je dis. Il est des libertés oubliées, votre honneur. De quoi voulez-vous parler ? Je pose seulement la question suivante. À quoi bon vivre longtemps si ce n'est pas pour vivre pleinement ? Hein, vous cherchez encore à aggraver votre cas, monsieur Compagnoni. Vous parlez comme l'un de ces stupides résistants du réseau Sénèque. Vous pourriez en faire partie, après tout. Enfin, passons. Vous n'êtes là que pour l'exercice illégal de votre ancien métier. Si nous divergeons, nous y serons encore demain. Je dispose de tout mon temps, monsieur le juge. Ben moi, pas. Et je tiens à expédier votre affaire au plus vite. Voyons la suite. Vous n'avez pas utilisé l'équipement réglementaire des trekking normatifs. Si vous l'aviez fait, j'aurais peut-être pu vous faire bénéficier de circonstances atténuantes. Ben, la liberté de l'alpinisme ne peut accepter l'entrave de telles armures, ni l'obligation édictée par la norme BC-418 de ne pas dépasser 1000 mètres d'altitude pour les ascensions. Une norme adéquate pour la liberté de vivre. Comment pouvez-vous ne pas comprendre cela ? Les libertés carcérales me sont étrangères. Fadaise ! Je vous fais remarquer qu'en dessous de 1000 mètres, il n'y a jamais de blessés à déplorer. La totalité des consommateurs rentrent sains et saufs. C'est tout à l'honneur de la société. Un honneur au prix trop grand, monsieur le juge, sauf votre respect. Il est des honneurs plus élevés où l'on respire davantage d'oxygène. Monsieur Compagnoni, je n'apprécie guère cette succession d'insolences. Par conséquent, à l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, j'ajoute circonstances aggravantes, votre irresponsabilité volontaire est inacceptable. Vous êtes décidément un cas. Êtes-vous conscient que ce procès tourne mal pour vous ?
Je m'en rends parfaitement compte.
Très bien. Revenons donc à l'essentiel. Vous vous êtes institué guide d'Edmond Cantori de manière illégale. Votre qualité d'ancien spécialiste d'un métier interdit aurait dû vous conduire à le dissuader d'entreprendre une action répréhensible. À tout le moins, vous auriez pu le contraindre à ne pas franchir la limite des 1000 mètres d'altitude autorisée. Votre entreprise était aussi criminelle qu'inutile. Edmond Cantori pensait le contraire, je veux dire en termes d'utilité. Pour lui, il n'y avait rien de plus urgent que de préserver l'utilité de l'inutile. Moi-même, je ne pense pas autrement. Et pourriez-vous seulement dire pourquoi à cette assemblée ?
Naturellement, monsieur le juge. Une ascension, même modeste, est la dernière chose qui reste aux citoyens comme Edmond Cantori et moi-même pour répondre à tout ce qui descend chez les consommateurs. De nos jours, il faut considérer les choses ainsi.
Vous osez tenir encore tête à cette juridiction ?
Oh, je n'ose rien, monsieur le juge. Je mets juste des mots sur les choses. Et que pourrais-je craindre ?
Vous punirez mon corps. Mon esprit restera libre.
Vous n'avez que des grands mots à la bouche, monsieur Compagnoni. Mais ils ne vous sauveront pas. Ne vous croyez pas inatteignable avec vos airs supérieurs.
La police a découvert vos carnets de notes dans la fouille effectuée chez vous. Des écrits aussi éloquents que pleins d'emphase. Ils corroborent ce que vous venez d'avouer et je les porterai tout à l'heure à la connaissance des jurés.
Ah, ce sera une autre de mes fiertés, monsieur le juge.
Votre impudence vous coûtera cher, soyez-en certain. J'avise déjà les jurés que dans ces carnets, vous accusez les consommateurs d'avoir abdiqué toute défense des libertés. C'est qu'une accusation aussi grave que mensongère pour une juridiction telle que la nôtre, et elle ne correspond en rien à l'état d'esprit du peuple. Cette assemblée peut en témoigner. Expliquez-vous.
Mais il n'y a rien à expliquer, monsieur le juge. Je cherche simplement à respirer. L'oxygène me manque, c'est tout.
Mais de quoi parlez-vous encore ? Vous êtes incompréhensible. Quoi qu'il en soit, et en ce qui vous concerne directement, vous devez respirer dans les limites prescrites par les progrès accomplis en matière de sécurité des biens et des personnes. Les Nations Unies universelles n'épuisent pas leur énergie à produire les normes les plus adéquates à la vie, prolongées pour que des gens de votre espèce les transgressent en permanence. Vous êtes le pire exemple que j'ai jamais vu, monsieur Compagnoni.
Permettez-moi de prendre cela pour un compliment.
Je préfère ne plus relever vos provocations. La sentence tombera tout à l'heure, lourde à souhait, n'en doutez pas. Mais je livre sans plus attendre au jury populaire de ces assises les preuves irréfutables contenues dans vos carnets. 3 extraits, parmi les plus subversifs, suffiront à l'éclairer en son âme et conscience sur votre mentalité. Ce jury se prononcera ensuite à main levée. Je vous rappelle, monsieur Compagnoni, que conformément aux droits de la défense, vous pourrez à chaque preuve énoncée contre votre personne vous rétracter afin de bénéficier d'un allègement de peine. Je cite donc ces 3 extraits, ce condensé de sottises plutôt. 1. Le refus du risque pourtant consubstantiel à la vie accompagne mécaniquement l'effondrement de toute éthique, ce pourquoi celle-ci n'existe plus, entraînant tout dans un vide sans fond. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Je maintiens.
2. La peur de la mort est le début de l'esclavage. Citation tirée d'un auteur français interdit depuis 2030. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Je maintiens.
3. On ne peut séparer le risque du courage et de la liberté, raison pour laquelle cette dernière a disparu. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Je maintiens.
Tout est donc dit et l'affaire entendue. Les débats sont clos. Avez-vous une ultime chose à ajouter ?
Oui, monsieur le juge. Puisque vous m'en donnez l'occasion, je vous crie à tous ceci.
Vive le risque et laissez-nous vivre. C'est un scandale !
Indéniablement, monsieur le juge, et je vous le dis comme je le pense. Si vous me relâchiez, je continuerai à aider les derniers citoyens à escalader les sommets du monde. Pour les consommateurs, je n'ai qu'une chose à ajouter.
Peuple effrayé, réveille-toi, ils sont devenus fous. Cette dernière provocation vaut tous les aveux. Je n'ai jamais vu ça. Je demande le verdict immédiat de ce tribunal et sans délibération. Mesdames et messieurs les jurés, prononcez-vous dans l'instant, s'il vous plaît. Levez vos mains. Voilà. Le vote est unanime. Je vous condamne donc, monsieur Compagnoni, à la peine maximale, 30 ans d'exposition à l'indignité publique, qu'on emmène le prévenu en place de grève, qu'on lui mette autour du cou le carcan de la honte et qu'on l'exhibe chaque jour à la foule des consommateurs.
You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad.
Eh bien, une petite dernière pour la route, comme on dit très élégamment. Je vais vous lire la nouvelle intitulée « L'éternel retour », toujours dans le recueil des dernières nouvelles du futur de Patrice Franceschi aux éditions. Ah, Grasset, en plus, ça se reconnaît tout de suite. Marion Kabakoff sortit de la bouche de métro Saint-Germain-des-Prés et huma l'air du printemps avec une joie profonde. Son bonheur était identique à celui qu'elle avait ressenti 10 ans plus tôt lorsqu'elle était venue inaugurer le quartier en octobre 2134. Cela lui semblait si loin maintenant. Elle traversa la rue Bonaparte à pas lents, appuyée sur sa vieille canne épée, souvenir de bien des combats, et s'arrêta devant le kiosque à journaux se trouvant non loin du café de Flore. Elle acheta Libération et parcourut rapidement les titres. Elle n'y trouva que de bonnes nouvelles. Syndicats et patronats étaient tombés d'accord la veille sur les augmentations de salaire des différentes branches d'activité. Les tensions entre juifs et arabes dans les territoires palestiniens avaient disparu après un nouveau plan de paix entre les deux parties. Et la lutte contre le chômage se révélait un succès remarquable avec seulement 0,5% de sans-emploi. Elle glissa le journal dans son sac à main et poursuivit son chemin vers l'écume des pages. Parvenue devant la librairie, elle contempla la vitrine un long moment sans pouvoir retenir son émotion. Les textes des grands anciens étaient exposés avec une élégance rare. Verlaine côtoyait Aristote, Romain, Gary, Épictète, et l'on avait oublié ni le grand Nikos Kazantzakis, ni Hemingway, ni tous ceux qui comptaient pour avoir en leur temps fouillé les tréfonds de la condition humaine. Elle entra et son émoi redoubla à la vue des milliers de livres empilés sur les tables. Ce spectacle la bouleversa. Elle parcourut les allées à la recherche du texte qu'elle pourrait offrir à sa petite nièce pour son anniversaire et s'arrêta sur une édition du « Désert des Tartares » de Buzzati, illustrée d'un splendide dessin de Moretti retrouvé 3 ans plus tôt dans les archives secrètes du réseau Sénèque. À la caisse, le vendeur la reconnut et refusa tout paiement. « Il achèterait le livre de sa poche, dit-il, en gage de reconnaissance pour son action passée. » Il ajouta que le bonheur n'avait pas de prix et Marion Kabakov accepta le cadeau d'un lent mouvement de tête qui fit ondoyer ses longs cheveux blancs. Elle ressortit, le livre sous le bras, et resta devant la porte de la librairie à contempler le ciel bleu. Aucun drone ne surveillait le boulevard Saint-Germain et elle n'aperçut pas une seule caméra de vidéosurveillance. Elle sourit en songeant aux terribles temps anciens de sa jeunesse où, pauvre ingénieure atomicienne au laboratoire de Boulogne-Billancourt, elle devait se faufiler entre les murs pour tenter d'échapper au regard des algorithmes et de leurs contrôleurs humains. Elle décida de s'octroyer quelques instants de détente à la terrasse du Flore et se dirigea vers le café d'un pas tranquille. Elle avait le temps désormais, plus personne n'avait besoin d'elle. Et à 90 ans passés, elle méritait bien un peu de repos de temps à autre. Elle s'installa à une table libre et commanda un tango panaché au serveur en blouse blanche et tablier noir. Celui-ci aussi la reconnut et voulut lui offrir sa consommation, mais cette fois Marion Kabakov refusa. « Ah, sinon je ne pourrais pas revenir », lui dit-elle avec un sourire. Et elle but son tango à petites gorgées, savourant la douceur du soleil printanier sur sa peau consumée par les combats. Deux policiers débonnaires la saluèrent respectueusement en passant. Elle répondit d'un geste de sa canne épée, puis resta observer les trottoirs où déambulaient en paix des représentants de tous les peuples du monde. L'attention qu'ils se portaient les uns aux autres me semblait limitée par rien. Les jeunes filles allaient tête nue dans des robes légères, bras dessous, avec des garçons assurés et tranquilles. Et aucun homme augmenté n'était visible, arrogant et nuisible pour les pauvres hommes normaux comme jadis. Marion Kabakov ferma les yeux. Dieu qu'il faisait bon vivre maintenant, comme des êtres humains véritables. Mais que d'efforts et de batailles pour y parvenir. Cependant, on y était. Les Nations Unies jouaient pleinement leur rôle au sein d'une humanité réconciliée avec elle-même et les guerres avaient disparu. L'éducation des peuples à la vie commune était parfaite et la maîtrise de la démographie par autodiscipline n'avait jamais été aussi efficace. La dégradation de l'environnement avait cessé, la nature était préservée, les nouvelles technologies étaient redevenues de simples outils de travail dont on écartait avec discernement les côtés néfastes. La surveillance généralisée d'autrefois avait été également supprimée et l'avenir s'annonçait radieux. Marion Kabakov était sur le point de s'assoupir lorsqu'un vieux Sénégalais surgit soudain devant elle, tout voûté et ridé, masquant le soleil de son ombre. « Marion !» s'écria-t-il avec une joie non dissimulée. « C'est moi, Ndiaye !»« Bah, tu m'as pas oublié quand même !» La vieille dame ouvrit les yeux et un nouveau trouble serra son cœur venu de très loin. « Oh, mon vieux Ndiaye » fit-elle en balbutiant presque. « C'est pas possible, mais que fais-tu là? Je te croyais encore à ton poste de directeur d'Interpol à Genève. Assieds-toi, veux-tu, et raconte-moi. » Ils s'étreignirent avec affection, embrassant leurs joues ridées à trois reprises comme au bon vieux temps de leur combat commun au sein de la direction du réseau Sénec. Ndiaye s'installa sur la chaise libre à côté de Marion. « Un autre tango panaché » commanda-t-il au serveur d'un grand geste joyeux. Le tango panaché avait toujours été la boisson préférée des membres du réseau à l'époque de leur clandestinité. « Alors, interrogea Marion, comment est-ce que ça se passe pour toi ?»« Oh, je t'ai pas vu depuis au moins 5 ans !» Ndiaye partit d'un grand rire. « Ah ben j'ai plus de boulot, Marion, terminé, je suis au chômage technique depuis 8 mois. La criminalité est toujours voisine de zéro et on s'ennuie ferme dans les bureaux d'Interpol. J'ai pris un peu de congé, Paris me manquait. Et toi, que deviens-tu ? » La vieille dame haussa les épaules. « Oh, moi, tu sais, un éditeur m'a proposé d'écrire mes mémoires, mais oh, j'hésite. J'aimerais profiter pleinement des dernières années qui me restent à vivre. Nous avons assez consacré de temps aux autres, tu ne crois pas ? Alors me remettre au travail, je sais pas. » « Si tu en parlais aux camarades, proposa Ndiaye, je suis certain qu'ils seraient de mon avis. Vas-y, écris, raconte tout. » « Pourquoi faire ? L'essentiel est déjà dans les archives. » « Bien sûr, mais pas les détails de ce qui a le plus compté dans tout ce qu'on a fait. Notre volonté demeurait libre, ta volonté originelle, ma chère Marion. Si tu n'avais pas démarré le mouvement lorsque tu étais étudiante, nous serions tous restés dans le chaos de notre jeunesse. » « Personnellement, c'est à toi que je dois d'avoir retrouvé le dialogue intérieur avec moi-même. Il y a 40 ans déjà, tu te rends compte ? Mais tu dois raconter toutes ces choses. C'est grâce à toi qu'on a pu commencer. Il fallait bien une femme pour ça. » « Disons que je vous ai permis de reprendre espoir quand tout semblait perdu, » corrigea gentiment Marion. « L'essentiel, vous le connaissiez déjà. » Et elle ferma les yeux en songeant à ses débuts, aux efforts démesurés qu'elle avait dû fournir pour rassembler derrière elle les humanistes combattants du monde entier afin de constituer le futur réseau Sénèque. Ensuite, il y avait eu les premières manifestations contre la montée de l'insignifiance et le retour de la vulgarité, la lutte contre l'extrémisme narcissique portant à la volonté de célébrité la plus indigne, le grand combat contre le crime mondialisé qui les avait obligés à recourir pour la première fois à la violence légitime, et tant d'autres batailles encore. Ndiaye interrompit sa rêverie. « Mon meilleur souvenir reste quand même ce que nous avons fait contre les transhumanistes. » Marion Kabakoff laissa échapper un petit rire. « Ah, c'est vrai. Mais au fond, qui avons-nous vraiment convaincu à l'époque que le progrès technologique n'a de sens qu'accompagné du progrès humain ? Pas grand monde, si tu veux mon avis. S'il n'y avait pas eu la découverte de Terra Nova, nous en serions toujours au même point. Nous ne vivrions pas ici, dans ce monde dont nous rêvions, mais sans nous raconter de contes de fées. Oui, sans le hasard, nous n'aurions pas pu rebâtir ce qui nous entoure aujourd'hui. » Ils s'abîmèrent quelques instants dans cette méditation, buvant à petites gorgées leur tango panaché. Les gens continuaient à déambuler autour d'eux, des oiseaux passaient en piaillant dans le ciel limpide et les murmures de la vie heureuse parvenaient jusqu'à eux, mêlés aux cris joyeux des enfants. « Il faut que tu écrives tes mémoires, » insista Ndiaye. « Au bout d'un moment, tu dois tout raconter depuis le début en détail pour les générations futures. Il faut qu'elles sachent ce qu'elles doivent aux anciens, comme nous, à toi surtout. » Qu'elles se rendent compte que rien n'est jamais acquis. Sinon, tout pourrait recommencer dans un éternel retour du même, tu le sais bien. Tu as raison, approuva soudain Marion. Je me laisse aller à ne rien faire depuis trop longtemps. Nos braves stoïciens, avec leur mystique de l'effort, doivent être mécontents de moi en ce moment. Et je vais suivre ton conseil et me mettre en ces mémoires. Et de ce pas encore. Elle se leva d'un air décidé, embrassa Ndiaye en lui promettant de le revoir bientôt et prit la direction de son petit appartement de la rue du Pont de Lodi, sa vieille canne épée à la main. En chemin, elle rassembla ses idées. Elle revit ce jour du mois d'avril 2103 où l'observatoire de Las Estrellas, acharné à réparer sa faute, avait enfin découvert la planète à laquelle s'étaient adressés les mystérieux extraterrestres dont l'existence avait chamboulé l'humanité pendant près d'un siècle. Cette planète avait la taille exacte de la Terre et on l'avait aussitôt baptisée Terra Segunda. Sans attendre, une mission spatiale avait été mise sur pied pour l'explorer. Très excitée, Marion n'avait guère eu de mal à se faire recruter dans l'équipe, jouant de sa qualité d'ingénieure atomicienne de renom. 3 hommes et 2 autres femmes l'accompagnaient. En ce temps-là, elle avait 40 ans et le réseau Sénèque, qu'elle avait créé de toutes pièces un soir de cafard, comptait déjà plusieurs millions de résistants clandestins répartis sur tous les continents. Ils se montraient actifs dans l'ensemble des domaines où l'humanisme était attaqué sous couvert de modernité. mais le combat piétinait. Marion Kabakoff n'aurait jamais imaginé que cette mission spatiale allait tout changer. Car en atterrissant sur Terra Segunda, elle et ses compagnons avaient été pris d'une panique métaphysique. Cette incroyable planète comportait les mêmes continents que la Terre, les mêmes fleuves, les mêmes déserts et montagnes, des océans identiques, une atmosphère en tout point similaire, et les plantes comme les animaux y étaient parfaitement semblables. Seuls manquaient les hommes. C'était proprement inimaginable. Marion Kabakoff avait immédiatement compris tout le parti qu'elle pouvait tirer de cette découverte si elle demeurait inconnue des Nations Unies universelles. Terra Segunda pouvait devenir le havre futur de tous les résistants. Sans trop de peine, elle avait réussi à convaincre ses camarades astronautes de la rejoindre au sein du réseau Sénèque et de tout dissimuler aux autorités. Avec beaucoup d'ingéniosité, ils tronquèrent leurs rapports, modifièrent les images renvoyées à la Terre depuis leur vaisseau et altérèrent chimiquement les échantillons collectés. Une fois revenus de leur voyage, ils déclarèrent aux Nations universelles que Terra Segunda était inhabitable et ne comportait aucune trace de vie malgré les apparences. Les preuves qu'ils ramenaient étaient indubitables. Le dossier fut classé et on oublia officiellement l'histoire. Les instances dirigeantes du réseau Sénèque rebaptisèrent la planète Terra Nova. Et le projet de la repeupler avec des millions de résistants commença à voir le jour, et d'autant plus vite que la Terre plongeait dans le chaos. Très vite, Marion Kabakoff et ses camarades décidèrent qu'ils rebâtiraient Terra Nova à l'identique de l'ancienne Terre, moins tous les défauts que l'histoire leur avait enseignés. Des milliers d'ingénieurs et de scientifiques appartenaient au réseau, on les mit clandestinement au travail. Il fallut 10 ans pour construire les vaisseaux nécessaires à la grande migration. Des stratagèmes inouïs furent imaginés pour tout organiser dans le plus grand secret et cacher aux autorités la fonction réelle de ces vaisseaux. Ce furent 10 années de travail acharné, d'espoir, de doute et de découragement. Tout ce temps, ils furent soutenus par le spectacle affreux que leur offrait le reste de l'humanité tombée dans un abandon si total de toute éthique que cela frisait l'apocalypse. Manifestement, la fin était proche. Puis le grand jour était arrivé, laissant les Nations Unies universelles dans la stupeur. Les résistants du réseau Sénèque s'étaient envolés vers l'espace sidéral à bord de dizaines de milliers de vaisseaux. Et c'est depuis les profondeurs de l'univers qu'ils avaient assisté avec une immense tristesse à la conflagration générale qui en un instant avait fait disparaître la Terre sous leurs yeux. Avec toute l'énergie qui les caractérisait, Marion et les siens avaient fait de Terra Nova le paradis humain qui avait tant motivé leur action. Ils n'avaient rien laissé au hasard et en 20 ans étaient parvenus à recréer ce qu'avait été la Terre d'autrefois, mais purgée de ses erreurs anciennes. Marion Kabakoff parvint devant chez elle comme le jour tombé, avant de pousser le grand ventail bleu du numéro 5 de la rue du Pont de Lodi où elle habitait au 3e étage. Elle eut un regard attendri pour les lieux. Elle s'était attachée personnellement à la reconstruction des 5e et 6e arrondissements de Paris par nostalgie. Sur l'ancienne Terre, à l'époque de ses études, elle avait fréquenté la plupart des cafés de ces deux arrondissements et y avait connu ses premières amours. Elle retint une larme en se disant qu'elle pouvait être satisfaite du résultat. Elle prit l'ascenseur pour monter chez elle, fit chauffer un peu de thé, s'installa dans son bureau. Elle débuta le premier chapitre de ses mémoires avec un bonheur lumineux, laissant courir sa plume sur le papier. Lorsqu'une horloge lointaine frappa les 12 coups de minuit, elle s'assoupit. Une sonnerie stridente la tira brutalement de son rêve. Hébétée de sommeil, elle regarda sa montre. 6 heures du matin. Elle alluma, terrorisée. Elle était allongée dans le lit de sa chambre d'étudiante à l'Institut atomique de Boulogne-Billancourt et la caméra du plafond la fixait comme l'œil de Caïn dans sa tombe.
C'était donc deux nouvelles de M. Franceschi que vient de nous lire Catherine. Ça s'appelle « Dernière nouvelle du futur ». Et si ça n'est pas follement réjouissant, c'est quand même...
follement vraiment, passionnant.
Vraiment édifiant.
Et édifiant, oui.
Bien, Hervé, tu as aimé, j'imagine ?
Oui, complètement. J'ai été pris d'un bout à l'autre. Vraiment. Hein. Ça donne envie de le lire.
Ah,
tout à fait. C'est un petit peu le but.
Là, vraiment, Catherine, c'est réussi.
C'est un petit peu le but. Bien. Eh bien, nous nous retrouverons le mois prochain. Hervé,
comme d'habitude.
Ça va être ton tour de lire.
Ah bah oui.
As-tu réfléchi à ce que tu allais nous proposer ?
Ah bah oui, et pour une fois, je sais.
Non.
Je vous lirai des extraits, parce que là, il s'agit d'un roman, hein, pas de nouvelles. Des extraits, donc, du dernier livre de Yasmina Kadra, Khalid.
D'accord. Mais t'as encore le temps de changer la vie d'ici là.
Ce qui peut arriver, oui.
Bien. C'était Bouillon de lecture. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.